Merci d'écouter RFI, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h à Paris. Une demi-heure consacrée à l'actualité, l'actualité du continent américain. Nous irons dans quelques minutes en Haïti, dans la capitale. Notre correspondante a rencontré des habitants qui souffrent de plus en plus des pénuries de carburant et de nourriture. Notre dossier du jour, au Texas, aux États-Unis, nous verrons que les autorités misent sur l'intelligence artificielle pour contrôler la frontière avec le Mexique. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour. Benoît Ferrand, en Martinique, on voit revenir un débat sur la vaccination obligatoire des personnels soignants contre le Covid.
Oui, des agents du centre hospitalier contestent devant le tribunal administratif leur radiation. Ils avaient fait usage de leur droit de retrait en 2021. Après l'instauration de l'obligation vaccinale pour les soignants.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes.
RFI Midi.
Et avant cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Revenir d'abord sur la visite d'Elon Musk en Chine.
Oui, la visite éclair du multimilliardaire patron de Tesla a pris fin ce matin après un entretien avec le Premier ministre en personne, Li Qiang. Le bilan est plutôt positif. Le constructeur automobile a notamment décroché un accord avec le pouvoir chinois en matière de protection des données. Explication Myriam Berber.
Elon Musk a levé un important obstacle réglementaire. Tesla pourra désormais transférer aux États-Unis toutes les données collectées sur ses véhicules vendus en Chine. Pour les autorités chinoises, les voitures Tesla répondent en effet aux exigences nationales en matière de protection des données. Et si l'on en croit des informations du Wall Street Journal, Elon Musk aurait également obtenu l'accord de Pékin pour utiliser sa technologie de conduite assistée grâce à un partenariat avec Baidu, le géant chinois de l'Internet dans le domaine de la cartographie. Lancée il y a 4 ans, la FSD, le logiciel de conduite assistée de Tesla, ne rend pas totalement la voiture autonome, mais il permet la navigation, les changements de voie et le stationnement automatique. Une technologie clé pour l'Américain qui affronte la rude concurrence du chinois BYD, qu'il a doublé au quatrième trimestre de 2023 en termes de vente.
C'était Myriam Berber du service économie de RFI. Elon Musk vient de se rendre en Chine. Le président chinois lui est attendu en France. C'est l'une des étapes de son prochain déplacement en Europe du 5 au 10 mai. Le président Xi Jinping effectuera sa première visite en Europe depuis 5 ans. Après plusieurs jours d'incertitude, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a finalement décidé de rester en poste. Il a choisi de conserver ses fonctions malgré, dit-il, la campagne de discrédit dont il accuse la droite et dont la dernière illustration est toujours, selon lui, l'ouverture d'une enquête judiciaire contre son épouse. Le Premier ministre socialiste a expliqué ce matin pourquoi il avait observé une pause de 5 jours. Il fallait, selon lui, pousser le pays à lancer une réflexion collective sur la polarisation de la vie politique en Espagne. Quant au chef de l'opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, il accuse Pedro Sanchez de s'être, je cite, « moqué des Espagnols ». Le Premier ministre écossais, lui, jette l'éponge. Moussa Youssef démissionne après avoir rompu son alliance avec les écologistes. Depuis cette annonce la semaine dernière, il avait perdu la confiance et aucune alliance de gouvernement ne semblait plus possible.
Au Mexique, la campagne électorale bat son plein.
Oui, plus de 97 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 2 juin pour de très importantes élections. Outre leur nouveau président, les Mexicains doivent élire leurs députés, leurs sénateurs, leurs maires et leurs gouverneurs. Hier soir avait lieu le deuxième débat télévisé avec la participation de Claudia Sheinbaum, la candidate du parti au pouvoir Morena. Elle part largement favorite avec au moins 50% des intentions de vote. Parmi les thèmes abordés hier soir devant les caméras, l'économie, les infrastructures et la lutte contre les inégalités. Correspondance de Gwendolina Duval.
S'inscrivant dans la continuité de la politique actuelle, la candidate Morena, Claudia Sheinbaum, a plusieurs reprises mis en valeur son bilan à la ville de Mexico.
Il y a une progression de l'emploi dans la ville de Mexico, il y a une augmentation de salaire. Pour la première fois, le taux de pauvreté dans la population est en dessous des 40%.
Tant sur les questions économiques que sur les enjeux environnementaux, les candidats ont entrecoupé développer leurs propositions d'attaques personnelles et d'accusations de mensonges ou de corruption dans des affaires qui entachent les camps rivaux, à l'instar de Xochitl Galvez de la coalition PRI-PRD-PAN.
Il y a 47 millions de Mexicains en situation de pauvreté et l'on se vante d'avoir des résultats ? Quelle honte ! Que dis-tu ? Non, Claudia.
Les trois candidats ont exprimé leur volonté de continuer ou lancer des grands projets et infrastructures au Mexique dans un contexte où l'économie du pays est en croissance. Jorge Maynez, candidat du mouvement citoyen.
Le Mexique a tous les atouts pour être prospère dans les prochaines années, à travers notamment la relocalisation de certains investissements de l'Asie vers le nord du Mexique.
À l'issue du débat, Claudia Sheinbaum affiche encore une victoire. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
On votera le 3 juin au Mexique, alors qu'au Venezuela, les électeurs seront appelés dans 3 mois à désigner leur président.
Oui, même si la campagne n'a pas encore officiellement commencé au Venezuela, les candidats sont déjà sur le pont, mais le pouvoir en place multiplie les manœuvres pour intimider l'opposition. De nouvelles arrestations ont eu lieu ce week-end. Le point avec Marine de la Moissonnière.
Deux membres de l'équipe de campagne de Maria Corina Machado ont été interpellés hier. Samedi, c'est un militant qui a été arrêté par les services de renseignement. Tous les trois avaient participé à un meeting de la leader de l'opposition vendredi dans le centre du pays. Une vidéo de l'un d'entre eux prenant la parole lors de ce rassemblement a notamment circulé sur les réseaux sociaux. Déjà au début de l'année, 7 cadres de l'opposition avaient été interpellés et accusés de complot, tandis que 6 autres se sont réfugiés chez l'ambassadeur d'Argentine. Arrestation, poursuite judiciaire et obstacle pour l'empêcher d'inscrire ses candidats à la présidentielle. L'opposition dénonce depuis des mois l'attitude du pouvoir, une répression brutale pour Maria Corina Machado qui s'explique, selon elle, par la peur de Nicolas Maduro de perdre l'élection du 28 juillet. Plusieurs ONG de défense des droits humains ont demandé la libération des militants arrêtés. Provea notamment rappelle que criminaliser l'activité politique est une violation des droits de l'homme. Les autorités vénézuéliennes, elles, n'ont fait aucun commentaire.
C'était Marine de la Moissonnière.
Le secrétaire d'État américain effectue une nouvelle tournée au Proche-Orient.
Il fait étape en Arabie Saoudite avant de se rendre demain en Israël. Cette tournée d'Anthony Blinken est destinée à promouvoir une trêve dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine appelle le Hamas à accepter une proposition associée à une libération d'otages. Proposition, selon lui, extraordinairement généreuse. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui au Caire entre le Hamas et des représentants de l'Égypte et du Qatar, deux des pays médiateurs. Le ministre égyptien des Affaires étrangères déclare avoir bon espoir. En France, Gérard Depardieu, placé en garde à vue ce matin dans les locaux de la police judiciaire de Paris. L'acteur, qui est âgé de 75 ans, est entendu sur des accusations d'agression sexuelle. Une décoratrice qui travaillait pour le film Les Volets Verts accuse l'acteur de l'avoir agressé en 2021. La seconde plaignante l'accuse des mêmes faits en 2014. Arnaud Lagardère, entendu actuellement à Paris, lui aussi par une juge d'instruction en vue de son éventuelle mise en examen. L'homme d'affaires de 63 ans est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pendant plusieurs années afin de financer son train de vie et ses dépenses personnelles. La ville de Turin, en Italie, accueille une réunion ministérielle du G7 ce lundi. Au menu, environnement et stratégie face au changement climatique. Les experts appellent ces grands pays du G7 à user de leur influence, de leur richesse et de leur technologie pour interdire les énergies fossiles. Un exemple parmi bien d'autres dans l'actualité. Au moins 45 personnes sont mortes dans le centre du Kenya après la rupture d'un barrage naturel. Il a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Kenya depuis maintenant plusieurs semaines. Enfin, ce rappel en football, Anne. Un 12e titre pour le Paris Saint-Germain, c'est maintenant une certitude. Le club de la capitale ne peut plus être rejoint en tête du classement après la défaite de son dauphin Monaco hier soir contre Lyon. Il est pile 15h09 ici à Paris.
Merci Gilles Moreau. RFI midi, suite et fin sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous allons prendre donc la direction d'Haïti où l'on attend d'en savoir plus sur la transition politique. Et à chaque jour qui passe, la crise, la pression des gangs continue de peser très lourd sur les Haïtiens au quotidien. Il est de plus en plus difficile de trouver de l'essence, par exemple. Le carburant est rare, la nourriture manque aussi sur les étals et les prix s'envolent au marché noir, comme l'a constaté notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-Andrée Bélange. Voici son reportage.
Dans cette station d'essence située dans la commune de Delma, banlieue de Port-au-Prince, des chauffeurs attendent. Une longue file de véhicules forme un embouteillage. Nino est chauffeur de taxi-moto. Il n'est pas sûr de rester là à attendre.
Je ne pourrai pas m'approvisionner. C'est une perte de temps. Il y a trop de monde. Je ne peux pas passer toute la journée à attendre sans parvenir à avoir une goutte d'essence. Cela peut fermer à n'importe quel moment.
À 26 ans, ce boulot de taxi-moto permet à Nino de subvenir à ses besoins. Le carburant est indispensable à son travail. Pour s'approvisionner, il doit se lever très tôt pour faire la queue ou avoir recours au marché noir. C'est devenu une préoccupation permanente pour Nino.
Dans les stations-service, le gallon d'essence me coûte 560 gourdes, soit 4 euros. Au marché noir, j'ai récemment acheté un gallon à 1500 gourdes, l'équivalent de 11 euros. Donc c'est plus que le double du prix initial. Cela affecte mon travail parce que je suis obligé d'augmenter le prix de certaines courses.
À Port-au-Prince, certaines pompes ne fonctionnent que quelques heures. D'autres, situées dans les zones contrôlées par des gangs, ont été contraintes de fermer, ce qui explique cette ruée vers les pompes. Mais ce n'est pas la seule raison, raconte Nino en califourchant sur sa moto.
Parfois, il y a du carburant dans les stations-service, mais les pompistes le gardent pour le revendre durant la nuit à ceux qui alimentent le marché noir. La semaine dernière, je me suis rendu dans une station. Le pompiste m'a dit qu'il ne vendait pas aux chauffeurs de taxi-moto, mais à des gens qui viennent avec des jerrycans parce que nous, si on ne les soudoie pas pour pouvoir s'approvisionner, les revendeurs, eux, si.
En tant qu'un business.
Face à cette situation, Nino en appelle aux autorités.
Je demande aux autorités de nous aider face à cette situation parce que c'est vraiment difficile. Je suis jeune, je veux travailler. Je n'ai pas l'intention de m'adonner à de mauvais actes. Si je décide de faire le taxi-moto, il faut que les autorités me permettent de le faire.
Mener ces activités en toute quiétude, c'est le cri également des commerçantes de la capitale haïtienne. Elle peine à acheter certaines des marchandises qu'elle revend ensuite. Conséquence de la paralysie du port de la capitale, explique cette marchande.
Le mois dernier, on ne trouvait pas de riz. Les prix avaient beaucoup augmenté en raison de la fermeture du port. Les ventes ont considérablement baissé car les gens n'achètent presque plus. Avec l'augmentation des prix des produits, nous aussi on est obligés de revoir les prix. Donc on arrive difficilement à écouler les produits.
À cela s'ajoutent les postes de péage instaurés par les gangs qui rendent difficile l'approvisionnement de certains produits.
Lorsque tu parviens à te rendre au centre-ville de Port-au-Prince, tu dois payer des droits de passage aux bandits. Je dois payer également des frais de transport qui ont aussi augmenté par rapport à cette situation. C'est là que j'avais l'habitude d'acheter mes marchandises, mais je n'y vais plus ces derniers temps parce que c'est difficile. Parfois, on nous confisque notre argent.
Les difficultés d'approvisionnement et les postes de péage entravent aussi le travail des organisations non gouvernementales en Haïti. Cette situation les empêche de venir en aide aux déplacés internes, évalués aux dizaines de milliers dans la capitale. Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
Reportage donc de notre correspondante dans la capitale haïtienne où le nouveau conseil présidentiel de transition a désormais la tâche de choisir son président. Ce sera demain en principe. C'est ce qu'indique en tout cas un communiqué officiel cité par l'agence haïtienne Alter Press. Les modalités du vote prévoient d'abord la constitution d'un bureau électoral, 3 personnes. Dont les 2 membres non votants du Conseil. L'ouverture des candidatures aurait lieu 1 heure avant le vote. Et tout candidat obtenant la majorité absolue sera désigné vainqueur. À défaut, écrit le Nouvelliste, alors un second tour sera organisé.
RFI, The World's Voices.
On va maintenant lire la presse ailleurs sur le continent. Bonjour Abla Jounaidi.
Bonjour.
Aux États-Unis, d'abord, les journaux reviennent sur une soirée où le ton est toujours plutôt léger. C'est le dîner des correspondants à la Maison-Blanche et ce rendez-vous traditionnel avec les journalistes a été l'occasion pour Joe Biden d'enchaîner les blagues, notamment d'ironiser sur son âge, qui lui est beaucoup reproché par les Républicains et par son rival Donald Trump.
And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old.
Oui, l'âge est un sujet. « Je suis un adulte » en lice face à un enfant de 6 ans. Succès garanti dans l'auditoire et commentaire ce matin dans l'éditorial du Washington Post. Ce n'est pas une blague, Biden fait monter la pression sur Trump.
Oui, c'est une des expressions préférées de Joe Biden, d'ailleurs, ce n'est pas une blague. L'autrice de cet éditorial du Washington Post, Karen Tumulty, n'imagine pas une carrière d'humoriste à Joe Biden, mais dit-elle, faire rire n'était pas la mission du président face aux 2600 journalistes et acteurs gravitant autour du pouvoir à Washington. Cela dit, il a passé un cap hier, considère la journaliste, alors qu'il a ordonné à ses collaborateurs de ne pas parler publiquement des problèmes judiciaires de Donald Trump. Biden, ce samedi, s'est moqué du scandale sordide qui occupe les journées de l'ancien président à Manhattan. Des références peu subtiles, dit-elle, au scandale Stormy Daniels. C'est un tournant par rapport à la gentillesse de l'oncle Joe. C'était jusqu'ici sa marque personnelle, souligne la journaliste.
Moins drôle, souligne l'éditorialiste, les sondages d'opinion qui ne décollent pas pour le président. En raison, en partie, de ce qui se passait hors de la salle à ce moment-là, Abla.
Oui, environ 400 manifestants étaient rassemblés à l'extérieur pour protester contre la position de l'administration Biden sur la guerre d'Israël à Gaza et sa couverture médiatique. Plus de 34 000 Palestiniens tués et au moins 97 journalistes, en grande majorité des Palestiniens. Cette manifestation faisait suite à la publication le 15 avril par un groupe de journalistes de Gaza d'une lettre ouverte appelant les médias à boycotter le dîner, rappelle le Time Magazine. La plupart des convives semblaient ignorer les manifestants, estime le média en ligne de gauche Mother Jones. L'un des journalistes a répondu à l'appel, rapporte le Times, Mehdi Hassan. Il a récemment quitté MSNBC après l'annulation de son émission et a créé son propre média, ZTOHID.
La guerre à Gaza continue de mobiliser sur les campus américains. Le week-end a été marqué par de nouvelles arrestations à Blas, dont beaucoup de non-étudiants.
De quoi mettre les dirigeants des universités face à une question centrale. Quand une manifestation franchit-elle la frontière, affiche à sa une le New York Times. Dans l'université d'État d'Arizona, pas moins de 69 personnes ont été appréhendées, en majorité du personnel ou des personnes extérieures, selon l'administration de la faculté. À l'université Washington de Saint-Louis, dans le Missouri, la candidate du Parti Vert à l'élection présidentielle, Jill Stein a fait partie des dizaines de manifestants arrêtés samedi, rapporte USA Today. En cause, un tour de vis des universités dont certaines ont reconnu avoir laissé des personnes extérieures entrer pour camper. Les universités citent les dégâts matériels, les provocateurs extérieurs, les expressions antisémites ou tout simplement le non-respect des avertissements comme raison pour évacuer les campements et arrêter les étudiants, selon le New York Times. Certaines ont tenté de freiner l'influence des étrangers, comme Harvard, qui exige désormais la présentation d'une carte d'identité universitaire. Mais d'après le journal, nul n'est capable d'étayer les accusations sur la présence massive d'éléments extérieurs dans les manifestations. Les contre-manifestants pro-israéliens sont de plus en plus présents sur les campus, touchés par les manifestations pro-palestiniennes. Et les deux camps ont échangé des bousculades, des insultes et même des coups de poing dimanche à UCLA, l'Université de Los Angeles, décrit de son côté USA Today.
Un dossier donc qui est en train de prendre une part importante dans la campagne électorale aux États-Unis. Depuis le début de cette campagne, les Républicains mettent en avant, eux, deux thèmes majeurs pour eux et qui embarrassent le président. L'immigration et la frontière avec le Mexique. Une démarcation sous très haute surveillance avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est notre dossier du jour, signé de notre correspondant au Texas, Thomas Arms.
Il y a un an, en avril 2023, Alejandro Mayorkas, secrétaire d'État à la sécurité intérieure des États-Unis, créait une équipe spéciale en charge de l'intelligence artificielle.
Nous cherchons à déployer les IA de façon à mieux contrôler les cargaisons, à identifier les biens produits par du travail forcé et pour gérer les risques. Nous allons voir comment utiliser cette technologie pour mieux détecter le transport de la drogue fentanyl.
Mais pas uniquement. Cette technologie est aussi utilisée pour identifier les mouvements détectés par des caméras automatiques sur les tours de surveillance. Analyser si ces mouvements sont des animaux sauvages, du bétail, des véhicules des gardes-frontières ou des déplacements inhabituels ou récurrents de véhicules qui peuvent être des migrants qui tentent d'entrer discrètement aux États-Unis ou leurs passeurs. Mais ces nouveaux outils de surveillance rendent mal à l'aise les habitants de la région et les propriétaires de terrains frontaliers.
Je suis allé dans la salle de contrôle des gardes frontières stationnée à McAllen, là où les agents travaillent avec les caméras de ces tours et les autres technologies qui s'y trouvent.
Mariana Trevino-Wright est la directrice du Centre national des papillons, dédié à la conservation des différentes espèces et à leur étude. Mais le centre de 40 hectares en périphérie de McAllen jouxte la frontière avec le Mexique. Il est également un des fers de lance de la lutte contre la construction d'un mur le long du Rio Grande.
Ces caméras observent sur 360 degrés, de jour comme de nuit. Et elles ont des senseurs qui analysent les mouvements sur une dizaine de kilomètres sur ce qui se passe au Mexique.
Les nouvelles tours automatiques sont alimentées par des panneaux solaires, ce qui garantit leur autonomie. Elles se situent la plupart du temps sur des terrains privés ou des réserves indiennes, là où il y a peu d'agents frontaliers. Il existe pas moins de 300 tours de surveillance de la côte californienne à la pointe du Texas. Mais pour le secrétaire d'État Alejandro Mayorkas, leur usage sera pondéré et réfléchi.
Notre département va utiliser les intelligences artificielles pour sécuriser notre patrie de façon responsable. Dans le même temps, nous allons nous assurer que l'usage des IA est testé avec rigueur pour empêcher les biais et les impacts discriminatoires. Nous allons aussi nous assurer que cet usage est facilement explicable ou compréhensible par nos citoyens.
Selon leurs fabricants, les tours peuvent être programmées pour ne pas enregistrer les mouvements au Mexique, ni analyser ce qui se passe dans les maisons de particuliers. Mais les randonneurs et les habitants frontaliers ne sont pas convaincus que leur vie n'est pas enregistrée. Mariana Trevino-Wright.
Mais si, vous êtes complètement surveillé, enregistré et analysé. Il y a un maillage numérique tout le long de la frontière qui enregistre les adresses IP des téléphones ou ordinateurs que vous avez sur vous. L'Office des gardes frontières, CBP, a admis avoir déjà déployé et utilisé cette technologie contre des citoyens américains pendant les manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis. Et cela se passe tous les jours à la frontière.
Dernière étape de l'automatisation de la surveillance frontalière, des chiens robots. Capables d'aller vérifier les anomalies détectées par les intelligences artificielles, ils pourront transmettre des données de localisation ou des vidéos. Mariana Trevino-Wright.
Les autorités ne vont jamais mettre un terme aux patrouilles humaines. Et les chiens robots ne sont pas de la science-fiction. Ils ont été développés et le gouvernement cherche à les déployer. Leur impact sera le même que celui des chiens utilisés par les miliciens blancs qui recherchaient des esclaves en fuite ou considérés comme rebelles aux États-Unis.
En 2022, le président mexicain a signé un accord avec la Maison-Blanche pour investir 1,5 milliard dans ces technologies frontalières. Thomas Arms, Houston, RFI.
RFI, la radio del mundo.
De l'autre côté de la frontière, au Mexique, la campagne électorale se poursuit avec un débat hier soir pour la présidentielle. Il y a eu beaucoup d'insultes à Blas Jonaidi.
Oui, c'était le deuxième débat entre les deux favorites des sondages, Claudia Sheinbaum, candidate du parti présidentiel Morena, et Xochitl Galvez, l'opposante. La candidate de l'opposition a qualifié l'ancienne maire de Mexico, entre autres, de menteuse en série et de narco-candidate. Xochitl Galvez a aussi sorti une vasque d'eau contaminée d'un quartier de Mexico en l'invitant à en boire, rapporte Proceso. Une façon de s'en prendre à son bilan et à celui du président sortant qui, selon elle, a abandonné les producteurs face à la plus grande sécheresse de l'histoire du pays, peut-on lire dans Milenio. Face à ces offensives, Claudia Sheinbaum a tenté de répondre avec des propositions et en rappelant ce qui a été fait par le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador en matière de transition énergétique, explique le journal La Razón. Pris en étau, le troisième candidat, Jorge Álvarez Maynez, qui entend incarner la nouvelle politique, tentait surtout d'exister hier soir. Dans un message final, rapporte Proceso, il a lu les vœux de son fils de 8 ans pour un Mexique meilleur, tout en exhibant la couverture de son dernier livre dans une promotion gratuite à la télévision, ironise le quotidien de gauche. Cela ne l'a pas empêché de regretter le niveau du débat assuré par ses deux adversaires femmes. Le débat a aussi alimenté la machine à mèmes sur les réseaux sociaux. Les mimiques des deux candidates ont inspiré les internautes en images détournées. Le journal Milenio en a compilé plusieurs, Anne, toutes plus hilarantes les unes que les autres.
Et ben on encourage nos auditeurs à aller voir ça, notamment sur Twitter. Merci à Blas Jonaidi pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Martinique, la polémique sur la vaccination obligatoire des personnels soignants contre le Covid est de retour à la une de l'actualité ce lundi.
Six agents du centre hospitalier universitaire de la Martinique, le CHUM, contestent en effet leur radiation prononcée en début d'année par la direction du centre hospitalier. Ces agents avaient fait usage de leur droit de retrait en 2021, après l'instauration de l'obligation vaccinale pour les soignants. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le syndicat UGTM Santé demande au tribunal administratif de Fort-de-France de suspendre la radiation des agents. Serge Haribaud est le secrétaire général du syndicat. Il est au micro de Franck-Edmond Mariette.
Le fondement même de ce droit de retrait est basé sur la question de l'obligation vaccinale qui était imposée aux salariés, qui était imposée à tous les agents hospitaliers. Et je crois qu'il faut bien le comprendre, il y a eu plus de 600 agents qui ont porté leur droit de retrait devant la direction. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à partir de ce moment-là que l'inscription a été faite au registre, il y avait nécessité de respecter la réglementation. Donc le fondement même du droit de retrait qui est lié à l'obligation vaccinale, c'est lié pour toute la population. On était dans ce combat-là de la possibilité de tout un chacun de disposer de son corps alors qu'on leur proposait des produits qui n'étaient pas nécessairement validés complètement puisqu'on disait qu'ils étaient toujours en test. Et c'est cela qui a gêné la direction et qui gêne toujours le gouvernement.
Direction la Guadeloupe maintenant avec le couvre-feu mis en place il y a maintenant une semaine. Couvre-feu pour les mineurs non accompagnés dans les rues de Pointe-à-Pitre et dans 2 quartiers de la commune des Abîmes. Alors 7 jours plus tard, la mesure, on pouvait s'y attendre, ne fait pas et toujours pas, et elle ne le fera sans doute jamais, l'unanimité. Reportage Jordi Rayap.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Pointe-à-Pitre, les avis divergent sur cette mesure exceptionnelle.
C'est bon même, plus que bon.
Pour d'autres, comme ce mineur, directement concerné puisqu'il est issu de la région pointoise, c'est une mesure qui n'a pas vraiment de sens.
C'était vraiment inutile. Les jeunes sortaient quand même dans tous les cas. Moi, ça me fait rien, franchement.
Un point de vue sur lequel plusieurs citoyens de la ville ayant plus de 25 ans le rejoignent. Pour eux, c'est un problème de fond quasiment impossible à traiter, puisqu'à leur sens, les mineurs sont surprotégés par la loi.
Moi, je trouve ça ridicule. Il faut vous dire que les parents ont perdu aussi leur possibilité de gérer leurs enfants. Les parents n'ont pas le droit de corriger leurs enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons la délinquance qui prend des proportions qu'on ne saurait maîtriser.
Avis favorable ou pas, la mesure en vigueur depuis une semaine durera jusqu'au 22 juin. Un bilan sera dressé d'ici un mois. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'exclut pas la possibilité de prolonger le couvre-feu pour mineurs à Pointe-à-Pitre.
Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand. À demain. De la musique pour nous accompagner jusqu'à 13h30, temps universel. Voici Free de Cat Power.
Don't be in love with the autumn.
Cat Power qui sera en concert ce soir à Paris. C'est ainsi que se termine RFI Midi ce lundi, réalisé par Vincent Biteau. Vous restez avec nous. Dans quelques secondes maintenant, de vive voix, Pascal Paradou et son invité s'interrogent sur l'héritage griot. Et nous, on se retrouve demain à 11h, temps universel. Très bonne journée à tous.